comment dire, les réflexions et les commentaires que je suis amenée à faire viennent finalement essentiellement de ma pratique d'inspecteur du travail quand j'ai exercé ce métier, même si aujourd'hui je ne l'exerce plus. Finalement, les commentaires que j'ai envie de faire, c'est que finalement, le droit du travail s'est construit, soutenu par un point de vue politique sur ce que c'est que le droit du travail et sa visée protectrice, ça a été rappelé, qu'il s'agissait d'ériger des protections par rapport aux mécanismes du marché, notamment, et que ces protections renvoyaient à des règles non marchandes, précisément, des règles de société pour réguler un système de production qui, lui, est marchand. Et cet ensemble de règles renvoie à l'ordre public social qui, aujourd'hui, est détricoté. C'est ce que vous avez dit tous les deux. Par exemple, les règles sur la mensualisation, les assurances sociales, les institutions représentatives du personnel, les règles relatives à la fixation des salaires, finalement, étaient autant d'objets de délibération dans l'entreprise et n'étaient pas le fruit ou le résultat des règles du marché. C'était des règles précisément qui étaient créées, négociées, discutées dans le cadre d'un débat dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Et puis, depuis les années 80, on assiste à une dégradation des conditions de travail et de santé des salariés, et aussi donc à une relative ou importante, je ne sais pas, déconstruction du droit du travail. En matière de conditions de travail, vous l'avez dit, les charges physiques et mentales augmentent, les contraintes se renforcent, le travail s'intensifie. Les entreprises se réorganisent perpétuellement et ça a des conséquences sur la santé des salariés, sans pour autant que le droit du travail permette d'appréhender dans leur globalité ces évolutions sur la dégradation de la santé des salariés. Et puis aujourd'hui, le marché réclame de la flexibilité et appelle toutes ces rigidités, plutôt appelle rigidité ce que vous avez appelé protection et qui est effectivement ce que moi aussi j'appelle protection. Donc on assiste à une forte tendance à la remarchandisation, ou du moins à la marchandisation de tout ce qui avait été soustrait au marché, et le salaire me paraît être un exemple emblématique de cette marchandisation de quelque chose qui n'était pas considéré comme devant être soumis aux règles du marché. Les règles d'élaboration du salaire dans l'entreprise et par les négociations dans le cadre des conventions collectives étaient le fruit donc de rapports de force et de délibérations. Or, aujourd'hui, il est devenu pratiquement impossible de discuter de négocier collectivement les salaires dans les entreprises, puisque de plus en plus, les salaires sont en lien direct avec la productivité, la financiarisation de l'économie réelle. Les salaires dans l'entreprise sont souvent associés à des parts variables qui sont le résultat d'objectifs individuels atteints. Tous les mécanismes de participation et d'intéressement sont en lien direct avec la performance économique de l'entreprise. Donc, en fait, le salaire n'est plus quelque chose de stable, quelque chose de stable et de régulé par la négociation, mais évolue en fonction du marché. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que les nouvelles organisations du travail, qui à la fois détériorent la santé des salariés et qui à la fois remettent en cause les protections établies par le Code du travail, finalement, ce sont ces nouvelles organisations qui vont déséquilibrer les équilibres créés antérieurement. Alors, les grandes évolutions ou transformations qu'on peut mettre en relief relative au droit du travail, il me semble que on est passé d'un droit qu'on pouvait dire politique à un droit technique, que le droit du travail, dans ce contexte, en passant du politique au technique, de ce qui est juste collectivement pour la société dans son ensemble, à ce qu'il est possible de faire d'un point de vue de la technique juridique pour répondre à des besoins spécifiques, ceux de l'entreprise, et que cela a pour conséquence de déposséder les acteurs sociaux, de décider, de la possibilité de décider des transformations à impulser dans le monde du travail. Paradoxalement, on est aussi dans une période où la négociation interprofessionnelle est très prospère, mais il me semble que cette négociation, dans la majeure partie des cas, que les partenaires sociaux arrivent à s'accorder sur des grands principes, sur des déclarations de principes, et un peu moins sur la création de protections nouvelles. Vous avez parlé de la sécurisation des parcours professionnels. Sur le principe, les différents accords qui en traitent font état d'un consensus social sur le sujet. Dans la réalité, qu'est-ce qui est mis en place pour favoriser cette sécurisation des parcours professionnels? C'est certainement pas à la hauteur des enjeux. On peut parler par exemple du droit individuel à la formation, qui est un droit nouveau, mais qui est un droit maigrelet quoi, par rapport aux besoins de la sécurisation des parcours professionnels. Donc voilà, du politique au technique, du droit collectif au droit individuel, ça a été beaucoup évoqué. Les règles collectives qui s'appliquaient au plus grand nombre sont remplacées par des règles individuelles. Et cette évolution s'accompagne de la diminution, voire de la disparition du rôle protecteur du collectif, y compris protecteur pour la santé. Ce qui fait que les conditions de travail, en plaçant peut-être la personne au centre... il n'est pas si sûr que les conditions de travail font fi du collectif, Et puis, donc, ce passage d'un droit collectif à individuel, à un droit individuel, effectivement, l'exemple du harcèlement moral me paraît absolument emblématique de ce passage, et aussi de l'impasse dans lequel il a plonger grand nombre de salariés, grand nombre de syndicalistes, grand nombre de praticiens du droit du travail en général, car en focalisant sur l'interpersonnel, la définition du harcèlement moral a privé les acteurs de l'entreprise de la possibilité d'un débat social sur les causes de la dégradation de la santé mentale et physique au travail. Et puis une troisième évolution qui résulte des deux premières, me semble-t-il, c'est le passage... vous avez le passage de la relative prise en main du devenir individuel et collectif des salariés dans le monde du travail à la difficulté ou à l'impossibilité d'avoir prise sur ce qui arrive dans le travail. Et ça me semble aussi déterminant quand on parle de conditions de travail et de santé, le fait de ne plus avoir prise sur les choses, sur son parcours professionnel, sur ses aspirations dans le travail, sur son développement, sur son métier, sont déterminantes relativement aux atteintes à la santé des salariés. Et puis, en voulant finalement se focaliser sur l'égalité entre les salariés au détriment de l'égalité d'une relative restauration de l'égalité entre l'employeur et le salarié, il me semble que le droit du travail finalement a renforcé les inégalités entre les hommes et les femmes, les inégalités entre les jeunes et les moins jeunes, les inégalités entre les bien portants et les malades. Et qu'en renforçant les inégalités, il a aussi affaibli la démocratie sociale dans l'entreprise. Alors, l'entreprise, je l'ai déjà dit, n'est plus un lieu de délibération sociale, et donc de ce fait-là, la conflictualité qui est inhérente au rapport de classe et même au rapport individuel dans l'entreprise se trouve externalisée, et notamment au tribunal des prud'hommes. Et ça, ça me paraît être un problème énorme, enfin, en tout cas une difficulté, le fait que l'entreprise ne soit pas un lieu de résolution des conflits naturels dans l'entreprise, mais que les conflits se trouvent leur solution, enfin trouvent leur solution dans le meilleur des cas, à l'extérieur, au tribunal des prud'hommes. Et puis, vous l'avez dit aussi un peu en filigrane, c'est que la jurisprudence, finalement, le droit du travail est un peu détricoté pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises, mais que du coup, la jurisprudence refait du droit protecteur. On l'a vu avec le CNE, on l'a vu là avec l'arrêt libre de la tentation, on le voit aussi en matière de santé au travail, où c'est la jurisprudence finalement qui se substitue au législateur pour recréer des protections individuelles et collectives dans le travail. Et alors, ces évolutions ont tendance à transformer un métier que je connais un petit peu, celui d'inspecteur du travail, et il me semble que c'est pas un métier, c'est pas un métier neutre dans le paysage du fait de la fonction des inspecteurs et contrôleurs du travail, et que cette transformation est importante, c'est qu'on on passe petit à petit d'un métier avec une posture généraliste. Le droit du travail c'est vaste, il y a une foultitude de champs. D'une vue d'ensemble, d'une appréhension par les inspecteurs du travail des grands principes du droit du travail, à un métier de plus en plus, alors ça vous paraît bizarre, mais c'est mon point de vue, un métier de plus en plus juridique et pointu, avec évidemment le droit du travail, mais aussi le droit administratif, le droit pénal, et qu'on avait un travail, de régulation généraliste, et on se retrouve à devoir exercer un métier extrêmement technique, pointilleux sur les questions de droit. Et on est passé d'une pratique du métier autour de l'accommodation des règles de droit, pour reprendre les travaux de Daudier sur l'inspection du travail. J'en profite d'ailleurs pour dire que aux chercheurs qui sont là, et aux jeunes chercheurs notamment, qu'il me semble que le métier d'inspecteur du travail mériterait des investigations de l'ensemble des disciplines que vous travaillez, et que à part ces travaux de Daudier de la fin des années 70, je crois que il n'y a pas eu grand chose, il y a peu de choses, voire pas, sur le métier d'un le rôle social de l'inspection du travail, la façon dont ce travail est exercé. Donc voilà, d'un métier général à un métier presque de document, presque de le nez dans le code du travail, le nez dans la jurisprudence. On est aussi passé donc un métier donc tourné autour des règles de procédure. On demande à l'inspection du travail aujourd'hui de faire des procès-verbaux, de faire des PV. Et par ailleurs, ce qui est renvoyé à l'inspection du travail, c'est que les procédures sont mal ficelées. C'est que je pense que traditionnellement, même si le métier d'inspecteur du travail, c'est d'aller regarder comment le droit s'applique dans les entreprises, je pense que les inspecteurs du travail ne sont pas des juristes. Et donc que la question des procédures forcément se pose, et que est-ce que l'inspection du travail doit se mettre, enfin voilà, et c'est une évolution du métier, parce que c'est aussi une évolution du travail, que c'est aussi une évolution du droit du travail, et donc ça me semble intéressant à discuter. Et puis c'est aussi un métier centré sur la prise en charge collective, alors qu'aujourd'hui, ce métier fait face à une vague de plaintes individuelles, un tsunami d'ailleurs de plaintes individuelles, et on passe petit à petit d'un métier de régulation, pour aller vite, à un métier qui consiste à contrôler le respect du droit. Mais à contrôler le respect du droit, est-ce qu'on ne passe pas à côté du travail, finalement ? Est-ce que Est-ce qu'en contrôlant, enfin, je veux dire, en considérant que le métier, c'est contrôler que le droit est respecté, alors c'est essentiel que le droit soit respecté, je ne dis pas le contraire, mais c'est un décalage dans la posture du métier et avec aussi une efficacité de l'action qui est reportée, différée, puisque en cas de non-respect, on s'engage dans des procédures longues, incertaines, à plusieurs années. Donc en fait, on est passé d'un métier où finalement on discute avec l'employeur et les transformations peuvent... Et on le convainc que les transformations sont à opérer, à un métier où on doit justifier juridiquement de la nécessité de faire ces transformations et évidemment en s'exposant à des procédures longues qui rendent l'efficacité plus problématique. Et puis, ces évolutions, ces métamorphoses attaquent le métier d'inspecteur du travail et demandent aux inspecteurs du travail de s'attaquer à leur métier, pour reprendre l'expression ce matin d'Yves Clos, pour ne pas que ce métier disparaisse. Et il me semble que les évolutions du droit du travail transforme également une autre activité que je connais un peu, c'est l'activité syndicale. Et que de ce côté-là, même si je ne suis pas pessimiste, je crois qu'on a des raisons d'espérer, c'est-à-dire que, voilà. Bon. Et ces raisons d'espérer, me semble-t-il, consistent dans le virage important, peut-être même radical, que je crois percevoir du côté des organisations syndicales pour connaître le travail. Et son neveu en a été témoin à la session, en a témoigné à la session précédente. Donc ce virage important de plusieurs organisations syndicales pour connaître le travail en percevant son caractère subversif, enfin le caractère subversif qu'a cette connaissance approfondie du travail, notamment quand il devient objet de débat entre les salariés, permettant d'aller et venir entre les détails de la situation de travail et le bien commun, et ce faisant, le permettant aussi de reprendre la main sur ce qui nous échappe. Donc regarder le travail, connaître le travail, devient alors un acte de résistance syndicale. Et il me semble important, comme le disait Fabien Neveu tout à l'heure, de multiplier les expériences de rencontres entre les chercheurs et les syndicalistes. Merci. Du coup, j'ai été trop longue.